retour à On a des choses à dire, une présentation de Lucie Dale Parizeau, cabinet d'assurance, et du magazine Contact Affaires.
Alors, on va maintenant accueillir pour une dernière fois, malheureusement, à ce moment-ci, pour la saison, notre collaborateur Claude Carpentier. On va sûrement le retrouver à l'automne, jusqu'à temps qu'il soit occupé à autre chose.
Ben avec plaisir. Mais si j'ai bien compris, Jean-Stéphane, c'est la dernière de la saison régulière.
Oui. Oui, ben c'est la dernière émission régulière de la saison régulière. La semaine prochaine, on fait une émission spéciale pour terminer la saison en parlant justement de la campagne qui s'en vient à la fin de l'été.
Mais c'est souvent comme ça avec les grandes vedettes. Si on prend Pierre Bruneau, Paul Arcand, Jean Lemay, Stéphane, c'est tout en vacances l'été, ça.
On travaille quand même, mais disons
j'en doute pas, j'en doute pas.
L'actualité, écoute, veut pas, l'actualité prend des vacances aussi, là.
Et ça, oui.
C'est plus tranquille, alors on se permet comme ça de reprendre notre souffle un petit peu de ce côté-là.
C'est de bonne guerre.
Alors, tu as décidé de nous parler, toi, des enjeux concernant Richelieu.
Oui.
Non pas Nicolet, Bécancour, Nicolet, Sorel.
Sorel, oui. Non, on va se concentrer sur Richelieu pour les élections du 1er octobre. Mais je pense que, comme vous l'avez mentionné tantôt, je pense que le dessin est déjà fait au niveau des candidatures qui sont annoncées.
Oui. À moins d'une surprise de dernière minute, là.
Ouais,
à
moins que,
mais je suis pas certain qu'il n'y ait pas trop tard pour présenter des candidatures.
Je pense que tu as raison.
Je pense qu'au niveau des délais, là, c'est peut-être trop tard.
Peut-être une vingtaine de jours avant.
Faudrait vérifier, je vous dis ça sur toute réserve. Mais en fait, les gens sont connus, puis je vous dirais qu'au niveau régional, on a des gens quand même de qualité qui se présentent pour chacun des partis.
Oui.
Sylvain Rochon, c'est quelqu'un qui est connu au niveau régional, c'est quelqu'un qui est impliqué, qui a beaucoup de connaissances politiques. Jean Bernard, ben, c'est la même chose. Jean Bernard en est à sa troisième tentative. Il y a beaucoup d'expérience au niveau de la CAQ. Sophie Chevalier, elle a de l'expérience, mais surtout au niveau municipal. Et je suis convaincu qu'elle va trouver ça fort différent au niveau provincial. C'est pas tout à fait la même chose, parce que elle a quand même des lignes de parti à suivre. Puis là, c'est une politique provinciale au lieu d'une politique municipale. Les enjeux sont fort différents. Et on a de l'autre côté Mme Sophie Pagé-Sabourin, qui est une jeune fille, si je me trompe pas, je pense que c'est une jeune autochtone qui poursuit ses études et qui veut faire une maîtrise en politique autochtone.
Elle en est à sa deuxième tentative, je pense. Est-ce que c'est...
Oh, écoutez,
je sais pas si elle est à sa deuxième. Est-ce que c'est elle qui était là la dernière fois?
Non, je pense pas.
C'est une étudiante aussi, il me semble, qui était là.
Oui, c'était une étudiante, mais c'était pas la même. Alors, ce qu'on note au niveau de la région, comme partout au Québec, pour en discuter avec des gens là, au niveau régional, je pense que les gens demandent un changement. Alors, je ne sais pas comment ça va tourner. Au moment où on se parle, il y a des grandes lignes qui vont sortir des partis, mais au niveau régional, on peut pas dire qu'il y a quelque chose qui est propre à la région de Richelieu qu'on pourrait appliquer actuellement.
Mais quand tu parles de volonté de changement, est-ce que tu parles de la volonté générale dans la province de vouloir changer le gouvernement actuel?
Et la région...
Ou si dans la région, ils veulent changer...
Ben, je pense que la région suit la tendance du Québec, à l'effet que les gens
veulent
changer.
On n'est pas au pouvoir, là. On fait pas partie de cette...
Ouais, je comprends, mais regarde, si tu me permets d'ajouter un petit peu sur ton propos, je vais peut-être ajouter, hormis les sondages, si on le prend d'une façon différente, les gens disent qu'ils veulent du changement parce que ça fait 15 ans que les libéraux sont au pouvoir.
Ouais.
Dans les 15 ans que les libéraux ont été au pouvoir, il y a eu une pause de 18 mois, mais ça n'a pas touché notre région. Parce que nous autres, ça fait 24 ans qu'on est séparatistes non-stop avec le Parti québécois, autant qu'avec le Bloc québécois. Fait que si les gens ont besoin de changement et qu'ils sont tannés des vieux partis, est-ce qu'ils vont considérer le Parti québécois comme étant un aussi vieux parti que le Parti libéral?
Ouais.
Alors, c'est ce qui peut changer la dynamique. Mais ce qui va changer la dynamique, c'est qu'est-ce que les partis peuvent apporter au niveau régional et qu'est-ce que les candidats peuvent nous apporter en termes d'individus. Parce que si on le prend au niveau régional, actuellement, il n'y a pas grands enjeux qui vont faire en sorte que les paliers de gouvernement, soit provincial ou fédéral, sont sollicités. Puis je pense que Louis de Lamondon et Sylvain Rochon sont d'accord avec ça. Je m'en mets avec le dossier du pont, mais hormis le dossier du pont. Mais ce qui s'en vient, puis ce qui va impacter notre région, et les enjeux où on va avoir des discussions, je pense, avec les candidats et avec le gouvernement provincial, c'est les dernières déclarations puis les derniers gestes que M. Donald Trump a posés, parce que ça vient nous impacter beaucoup au niveau de l'acier. Mm-hmm. Ça va impacter beaucoup RTFT, ça va impacter les forges de Sorel, ça va impacter... oui, beaucoup de sous-traitants, les aciers Richelieu, puis tout ça, ça va avoir des impacts.
On n'a malheureusement pas pu avoir de confirmation. On a entendu parler qu'il y avait déjà chez Finkel, chez les forges de Sorel, déjà des changements au niveau de l'emploi à cause de ce que ça... À cause que ça rend frileux les administrateurs de ces compagnies-là.
Exactement. Mais ça, c'est tellement récent que ça fait pas partie d'encore des enjeux d'une politique provinciale. Mais chacun des partis va avoir à se prononcer là-dessus, parce qu'il y a beaucoup d'impact aussi dans d'autres régions que dans notre comté, malgré que le nôtre soit très impacté, même si... Tinto, c'est pas le plus grand employeur de la région. On est quand même très, très, très impacté par ces mesures-là. Et comme je disais tantôt, les gens veulent avoir du changement. Mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Parce que les candidats vont devoir essayer d'appliquer des politiques provinciales et d'essayer d'amener ça au niveau régional. Mais ce qui est annoncé, sans nécessairement parler de parti, il y a beaucoup de choses qui vont être modifiées, peut-être au niveau de l'agriculture. On parle de changer le mode de scrutin pour les élections de 2022 dans un mode de scrutin proportionnel mixte. Mais ça touche pas nécessairement notre région, sauf au niveau de l'électorat. Après ça, on parle de la gratuité scolaire, les soins dentaires et oculaires aussi, que ça fait partie des demandes. Sauf que les politiciens sont pris avec des nouvelles demandes qui sont pas chiffrées au moment où on se parle. Puis Dieu sait que ce sont des demandes qui peuvent être excessivement dispendieuses.
Ouais.
Parce que les deux tiers de la table budgétaire du gouvernement provincial au moment où on se parle vont toucher l'éducation et la santé. Et on tente encore d'en ajouter. Fait qu'en quelque part, il y a une chose qu'un politicien n'est pas capable de demander ou qu'un citoyen n'est pas capable de répondre, c'est où on va couper pour être capable d'avoir ça, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est l'endroit en Amérique du Nord où on a le plus de services gratuits. Hein?
Mm-hmm. Mais il y a une chose, par exemple, qui me surprend. Ben, tu l'as effleuré, ce domaine-là, mais tu l'as pas vraiment inclus comme impact et comme enjeu, surtout. Et je trouve que c'est pas mal ce qui a fait... J'oserais pas dire le mot là qui me vient à l'esprit, mais qui a fait en sorte, qui a soulevé la colère de l'électorat face au gouvernement actuel, ça a été la façon de traiter le monde de la santé.
Oui.
Et ça, je pense que ça en est un enjeu où, entre autres, le député sortant s'est positionné très clairement à essayer de tirer la couverture, rapatrier la direction aussi.
Tout à fait. Bon, le gouvernement a décidé de centraliser certains services, des services administratifs, des services de laboratoire, malgré que
nous autres... Ils ont foutu le bordel.
au niveau administratif, on peut dire qu'ils ont foutu le bordel. Sauf qu'une fois entré dans le réseau de la santé, quand on a besoin de soins, on peut dire qu'on est bien traité. Mais le sacrifice qu'on a à faire pour ça... c'est qu'il faut souvent manger des patates en poudre. Puis ça, ben c'est un volet qu'on a à améliorer
Claude, c'est pas... Oui, mais là tu caricatures un petit peu, mais il y a pas juste ça, là. Il y a le fait que les ressources s'épuisent.
Oui.
Les ressources ont de la misère. Fait que c'est, le bordel n'est pas simplement pour rentrer à l'urgence. On n'est même plus là, là. C'est rendu... On entre à l'hôpital, mais est-ce qu'on va être servi adéquatement parce que les gens sont épuisés? On sait qu'ils font des miracles pour rester fidèles au poste puis de livrer la marchandise.
Oui.
Mais combien de temps ça va durer? Il faut que ça change. Il faut qu'il y ait quelque chose qui change de ce côté-là aussi.
T'as tout à fait raison, puis j'ai hâte de voir la position que les deux autres partis, le Parti québécois et la CAQ, ce qu'ils vont proposer pour être capable de régler cette problématique-là, puis d'être capable d'améliorer le sort du réseau de la santé. Mais sauf que moi, ce que j'espère de tout cœur, c'est qu'il soit capable de le faire avec le même encadrement budgétaire.
Vous parliez tout à l'heure des décisions de Trump qui ont un impact direct dans la région. Et là, je suis conscient que je pose la question à un fédéraliste. Quel poids peut avoir une province sur une décision de Donald Trump?
Ben, en fait, il va y avoir des discussions qui vont être faites avec le gouvernement fédéral, parce que le gouvernement fédéral est d'accord, lui-ci, même avec l'opposition, avec M. Andrew Scheer, qui est absolument pas question de délaisser les travailleurs puis de délaisser les Canadiens avec les problèmes qui vont être occasionnés par M. Trump. Et à cet effet-là, je suis convaincu qu'il n'y aura pas aucune difficulté avec, de négocier avec le gouvernement provincial en place, peu importe le parti qui va être élu et qui va former le nouveau gouvernement. Je pense que autant du côté provincial que du côté fédéral, même M. Ford, là, qui vient d'être élu en Ontario, a fait exactement la même déclaration de son côté. Ah. Fait que l'ensemble des provinces canadiennes et le gouvernement fédéral, tout parti confondu, sont d'accord à ne pas délaisser les Canadiens. Fait que c'est pas d'inquiétude.
Parce que je pense que on a tous été agréablement surpris de voir à quel point Justin Trudeau s'était tenu debout et avait, écoute, il a même empiré les choses à un certain point parce que le caractère imprévisible de Donald Trump, il a mis de côté la raison pour laquelle il était en Corée du Nord pour parler de Justin Trudeau, comme quoi il l'avait vraiment pas pris, puis que c'était pour lui nous coûter cher.
Ouais.
Mais je pense qu'on est rassuré, par contre, de voir qu'on a un dirigeant qui n'a pas peur d'aller au front. Là.
Ben, je pense que l'ensemble des politiciens, puis l'ensemble des tous les partis confondus au Canada, au provincial et au fédéral, sont sur la même longueur d'onde, c'est que la priorité, ce sont les Canadiens, les industries canadiennes.
Je te dirais que l'ensemble de la planète est pas mal liguée contre toutes les frasques.
Ah, je ne sais pas si ça va finir en jetoir avec Donald Trump et la Russie et la Corée, là, mais on verra. Je ne penserais pas que Justin Trudeau soit invité à ce jetoir-là.
Je pense pas. Il n'est pas prêt d'être invité à partager une table avec M. Trump, en tout cas, je pense pas, là.
Ben,
il va être obligé de retourner à la table de négociation, mais encore là, il envoie Mme
Freeland.
Mme Freeland.
Mais de toute façon, ils sont obligés, les Américains, de négocier avec tout ce beau monde-là, parce qu'ils peuvent pas s'isoler, là. Autrement, là, au niveau économique, ça serait terrible.
On s'éloigne du sujet, mais c'est quand même quelque chose qu'il va falloir qu'il soit réglé un moment donné.
Oui, mais au niveau de la région, comme je le disais tantôt, est-ce que les gens vont tenir à le changement? Puis ça a passé près, malgré que... Parce que si on regarde les élections partielles qu'il y a eu en 2015...
C'était très serré.
Très serré. Il y a eu 710 voix de majorité pour M. Rochon. Par contre, ce qu'il faut tenir compte, c'est que dans une élection partielle, les gens votent pas beaucoup et il y a juste 46 % des gens qui se sont présentés aux urnes, comparativement à 70 à l'élection générale de 2014. Mais malgré ça, dans le peu de temps, entre l'élection générale de 2014 et de 2015, le Parti québécois a perdu 4400 voix. Ici, au niveau de la région, c'est beaucoup dans peu de temps.
Oui, Sylvain Rochon, il fait face de un à l'impopularité de son chef puis de la baisse de popularité du Parti québécois en général, là, qui semble être évidente.
Exactement.
Et il y a la montée de la CAQ qui, elle aussi, semble évidente. On n'a pas parlé du fameux... On a éludé le sujet, là, on est passé à côté du pont, là, on a raté le pont. On n'a pas manqué le bateau, on a raté le pont. Ça aussi... La CAQ semble se positionner pas mal plus en faveur du projet, quoique Sylvain Rochon a beaucoup travaillé, mais globalement, là, ça aussi, ça va être un enjeu qui risque de faire la différence.
Oui, ça va être un enjeu. C'est certain que le dossier Dupont va le faire surface, mais j'aimerais ça, moi, si j'étais un élu de la région, je discuterais avec les élus de chacune des municipalités pour évaluer leurs besoins et d'essayer de trouver un projet régional qui serait profitable puis qui pourrait créer des emplois. Ouais. Parce que c'est ça qui nous manque. C'est ça qui nous manque dans la région. Même si on a un pont, et si on a ce stratère-là, on a des restaurants, on a des magasins pour accueillir les gens et toutes ces choses-là, ça prend des projets qui sont
porteur économique.
Parce que ça prend une économie. Parce que si je travaille pas, je peux pas me permettre d'aller au restaurant.
Mais je pense qu'un jour, les communications de ce côté-là aussi vont s'ouvrir, j'espère, et qu'on va entendre parler beaucoup plus de ce qui se trame avec le fameux nouveau port dont on est censé se doter, d'une part.
Ouais.
Et également aussi notre participation à l'essor de Contrecœur. Parce que veut, veut pas, là, nous, on est à la remorque de ça. Mais en étant là, leurs voisins, on va en profiter.
Exactement.
Mais il faut être là. Il faut pas manquer le train, il faut pas manquer le bateau.
Et ça,
là,
c'est des projets portés par le Parti libéral, les zones industrielo-portuaires, les fameuses ZIP. C'est libéral, là. C'est le ministre Jean Damour qui a amené ça ici.
Oh, oh, c'est pas dit que ça va s'arrêter s'il y avait un changement, par contre. Là.
On parlait de projets porteurs, ben il y a un projet qui a été porté par les libéraux, c'est celui-là.
Mais ça faisait partie là, de la stratégie maritime. Et ben, je suis convaincu que dans ces projets-là, peu importe, si c'est la CAQ qui est élue au pouvoir, ben ils vont pouvoir bénéficier de ce qui est déjà fait. Et j'espère qu'ils vont être capables de continuer puis d'améliorer. Là,
avec le projet Saint-Laurent de Legault, qui est un copier-coller.
En tout cas, veut pas, ça passe par là. Comme tu disais, ça prend des projets porteurs d'emploi, porteurs de développement du côté de l'emploi, du côté de l'économie. Puis ça va venir de là.
Absolument.
Les cinq prochaines années, il va falloir que ça se développe, que la trente se garnisse chaque côté là, entre ici et Contrecœur, d'entreprises qui vont employer des gens pour fournir le nouveau terminal de Contrecœur d'abord, puis peut-être notre port à nous aussi. Là.
Effectivement. Et moi, j'ai la conviction que ce sont des objectifs et des orientations qu'on va entendre parler d'ici le 1er octobre.
Ben c'est ce qu'on souhaite, qu'il y ait de la viande autour de l'os.
Oui, absolument.
Qu'on fasse pas juste se picosser personnellement des fois. Ça, c'est rare que ça se fait au niveau régional.
Ben
ça, c'est plus au niveau des chefs puis au niveau de...
Mais au niveau régional, ça va venir. Un petit peu plus tard, là, c'est certain là, qu'il y a des gens qui vont commencer à se
picosser. On parle des vraies affaires. C'est juste ça que je souhaite. Parce que d'une élection à l'autre, on reste sur notre faim. On reste sur notre faim pour... souvent pour parler des vrais enjeux.
Oui.
Claude Carpentier, merci beaucoup pour cette excellente saison.
Ben, ça me fait plaisir, puis je vous remercie là, pour les invitations que vous m'avez faites. On va vous souhaiter des bonnes vacances.
Merci beaucoup. Bon été à toi aussi. Puis merci. On se retrouve, nous, la semaine prochaine, pour faire face à la musique, justement, avec ces gens-là, et de parler de cette pré-campagne qui nous mènera vers le 1er octobre, où le Québec tout entier
sera aux urnes.
Merci beaucoup, Stéphane.
Je serai peut-être pas aux urnes le 1er octobre. Moi, je vote souvent par anticipation.
Ouais, mais moi aussi, la plupart du temps, effectivement.
Pas mal. Merci à toi, Jean-Lemay.
Bye-bye. À la semaine prochaine, tout le monde. Au revoir.